c'est une telle bénédiction d'être de retour chez moi, chez nous, aujourd'hui. Vous m'avez tous manqué. J'étais en déplacement pendant 2 semaines, la première semaine aux États-Unis et la dernière semaine au Brésil. J'ai rentré hier soir et je souffre un peu de décalage horaire. Si j'ai l'air d'être un peu fatigué, c'est vrai. C'est le cas. Mais au cause de ça, il n'y aura pas non plus des diapos aujourd'hui, parce que j'ai oublié de faire. Mais j'espère vraiment que vous avez porté vos Bibles et vos smartphones aujourd'hui. Mais pour commencer, en priant. Père, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole. Je prie que, tandis que je transmets tes paroles à cette assemblée, ton esprit continue de toucher le cœur de chaque personne ici présent, afin que chacun d'entre nous puisse repartir d'ici transformé. Amen. Je cherche mes lunettes aussi. Ah, c'est mieux. Qui parmi vous a participé au Hub il y a 2 semaines? Un bon nombre. Et si ce n'est pas le cas, écoutez les enregistrements pour entendre ce que Dieu nous dit, non seulement en tant que Hub, mais aussi pour cette Église. Fred a partagé beaucoup de choses qui est pertinent pour nous dans cette assemblée. Et c'est bien, on a tous prendre un peu de temps pour écouter, pour entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais développer l'un des sujets qu'il a abordé. Il y a fait allusion, mais n'a pas expliqué en détail comment cela s'est passé. Il a parlé de cet immeuble qu'ils ont acheté à Paris. Comme vous le savez tous, les immeubles ne sont pas chers à Paris. Ils n'avaient que entre 20 et 30 000 euros dans la banque, sur les comptes, pour acheter un immeuble de plusieurs millions d'euros. Entre 20 et 30 000 euros seulement. Et ils ont bel et bien acheté cet immeuble. Je voudrais parler un peu aujourd'hui de la manière dont cela se produit en tant qu'Église et de la façon dont ce principe s'applique à nous en tant qu'Église aussi. Et pour ceux qui prennent des notes, j'ai donné le titre de « Laisser Dieu entrer ». Pour commencer, en passant à l'histoire de la multiplication des pains pour les 5000 personnes, en Matthieu 14, 13 jusqu'à 21. Quand Jésus apprit ce qui s'était passé, il se retira en secret, en barque, vers un endroit isolé. Mais les foules ayant eu vent de cela, ils suivirent et à pied depuis les villes. Quand Jésus débarqua, il vit une grande foule. Il fut pris de piété pour eux et guérit le malade. Le soir tombant, les disciples s'approchent de lui et lui dirent « Cet endroit est isolé et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-le vous-même à manger. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, répondit-il. Apporte-les-moi, dit-il. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe. Prenant les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel, rendit grâce et rompit les pains. Puis il les donna aux disciples, et les disciples le distribueront à la foule. Tous mangeront et fruiront, rassasient, et les disciples ramassent 12 paniers remplis de morceaux qui restent. Le nombre de ceux qui avaient mangé était environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, c'est dommage, ils ne sont pas comptés. Mais j'ai une autre histoire à vous raconter, celle de l'Israélite et des murs de Jéricho. C'est Josué 5, verset 1 jusqu'à 20. Et je ne vais pas lire tous. Le premier verset. Or, Jéricho était hermétiquement fermé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'y entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Voici je livre Jéricho entre tes mains, ainsi que son roi et ses vaillants guerriers. Fais le tour de la ville avec tous les hommes de guerre et fais-en une fois le tour de la ville. Fais cela pendant 6 jours, que 7 prêtres portent 7 cornes de bélier devant l'arche. Puis le 7e jour, fais le tour de la ville 7 fois, tandis que le prêtre sonneront des cornes. Et quand il y aura un long son de cornes de bélier et que vous entendrez le bruit, que tous les peuples poussent en grand cri. Alors les murs de la ville s'écrouleront et tout votre peuple se précipitera dans la ville. » Verset 8. « Après que Josué a parlé au peuple, 7 prêtres portent 7 cornes de bélier devant l'Éternel, s'avanceront et sonneront des cornes, et l'arche de l'alliance de l'Éternel les suit. » Verset 10. « Mais Josué avait donné cet ordre au peuple. « Ne poussez pas de cris de guerre, ne faites pas entendre votre voix. » Qu'aucun mot ne sort de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai de crier. Alors, vous criez. Et verset 15, « Puis le 7e jour, ils se lèvent au l'aube et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. » Après le 7e tour, les prêtres sonneraient des cornes et Josué ordonna au peuple, « Criez, car l'Éternel vous a livré la ville. Or, la ville et tout ce qu'elle contient doivent être voués à l'Éternel pour être détruits. » Seul Rahab, la prostituée, et tous ceux qui sont avec elle dans sa maison vivront, car elle a caché les espions que nous avions envoyé. Et après, verset 20, « Alors, lorsque les cornes de bélier retentiront, les peuples poussa un grand cri. À la sonne de la corne, le peuple poussa un grand cri et la muraille s'écroula. Puis tout le peuple se précipita dans la ville et son empara. » C'est une histoire incroyable. Mais j'ai encore une autre. Josué et le fleuve qui s'assèche lorsqu'ils ont mis les pieds dans l'eau. Ça, c'est en Josué 3, verset 7 jusqu'à 17. C'est la même chose. Et le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'exalter aux yeux de tout l'Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. » dit au prêtre qui porte l'arche d'alliance, lorsque vous arrivez au bord des eaux de Jourdain, allez vous tenir dans le fleuve. Josué dit aux Israélites, venez ici et écoutez les paroles du Seigneur, votre Dieu. C'est ainsi que vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous et qu'il chassera certainement devant vous les Cananéens, les Hittites, etc. Voyez, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre entre dans le Jourdain devant vous. Choisissez donc 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un par tribu. Et dès que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, auront mis le pied dans le Jourdain, ses yeux qui coulent en aval s'arrêteront et se lèveront en un mur. Verset 15, le Jourdain est en crue pendant toute la saison des moissons. Mais dès que les prêtres qui portent l'arche atteindront le Jourdain et que leurs pieds toucheront le bord de l'eau, les yeux venant d'un monde cesseront de couler. Elles s'amasseront en un tas à une grande distance près d'une ville appelée Adam, dans les environs de Zarantan, tandis que les eaux s'écoulent vers la mer de l'Arbara, c'est-à-dire la mer Morte, furent complètement coupées. Les peuples traversent donc en face de Jéricho. Nous avons aussi écouté cette histoire ce matin d'Aline, la femme, la veuve, avec de l'huile. C'est la même histoire. En réalité, il y a bien d'autres récits dans l'histoire, dans la Bible, qui j'aurais pu utiliser pour illustrer ces mêmes points. Quel est le dénominateur commun de chacune de ces histoires? Dieu est venu et un miracle se produit. Et c'est aussi simple que cela? Non, évidemment. Vous êtes tous là? OK. Quelqu'un a dit un jour quelque chose comme « Dieu a le pouvoir de tout faire, mais il choisit l'homme pour permettre au miracle de se produire. » Je n'ai pas réussi à retrouver les citations exactes et j'espère donc l'avoir bien reportée, mais Dieu veut, nous sommes là et à partir de ce qu'il fait. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir les miracles. Il peut le faire sans nous. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux, les poissons, ainsi que chaque plante et chaque organisme sur cette terre, les étoiles dans le ciel. Je ne vois pas dans le Genèse que Dieu ait d'abord créé Adam et Ève pour ensuite leur demander d'accomplir les miracles. C'est l'inverse. Dieu accomplit des miracles, mais il veut que nous y en participions et non que nous en soyons exclus. À partir de là, on peut rapidement en déduire que nous avons besoin de foi pour que ces miracles se produisent. La réponse à un miracle consiste-t-elle donc à avoir la foi, puis à attendre que Dieu intervienne pour qu'un miracle se produise? En exactement les histoires que je viens de raconter, nous voyons tout d'abord que les disciples avaient la foi, même s'ils ne comprenaient pas tout à fait la tâche au départ. comment pouvait-il nourrir 5000 personnes avec seulement 5 pains et quelques poissons? Prenons l'histoire des murs de Jéricho. Imaginez les murs de cette ville. Ils étaient assez imposants en taille et en épaisseur. Ils avaient été construits pour repousser les attaques. Ils avaient été construits pour empêcher les gens d'entrer et n'étaient certainement pas faciles à abattre. Josué avait la foi. Ils avaient la foi. Et les murs se sont effondrés. Et l'histoire de Josué et du fleuve, il avait la foi et les œufs sont arrêtés. Dans chacune de ces situations, Dieu a parlé et nous avons vu le foi et le miracle se produire. Mais ce n'est pas assez simple. Désolé. J'aimerais pouvoir dire que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Permettez-moi de partager avec vous aussi une verset bien connue sur la foi. Matthieu 7, 17, verset 20. Et il dit, « C'est à cause de votre manque de foi car en vérité, je veux vous le dire. Si vous avez la foi de la taille d'une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. » J'ai sans doute souvent mal interprété ce verset. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont fait de même erreur. La graine de moutarde est une très petite graine. Ce n'est pas peut-être le plus petit, mais c'est petit. Et Jésus compare la taille de notre foi à celle d'une graine. Beaucoup d'entre nous regardent cela en pensant, si nous n'avons besoin que d'une foi de la taille d'une petite graine de moutarde, et je sais que je n'en suis pas là, il me faut tellement plus de foi pour attendre ne serait-ce que cette taille de foi. On a vu cette taille de foi, les petits grains de moutarde, comme plafond. On a besoin d'avoir cette montagne de foi. Nous pensons que nous avons presque rien de foi. Et Dieu dit, et Jésus dit, on a besoin d'une petite montagne de foi. Et nous vivons cette petite montagne comme problème pour nous. C'est le concept du verre à moitié plein. On voit cette petite graine comme une montagne. Comme un niveau que nous devons atteindre. Cette montagne que nous devons surmonter. Combien de fois vous sentez-vous diminué parce que vous avez l'impression que votre foi n'est pas la bonne taille, qu'elle n'était même pas la taille d'un grain de moutarde. Ça, c'est quelque chose, le diable est content de nous voir. De voir en nous parce que nous pensons inadéquat pour Dieu. Mais ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a le temps pour que nous regardions cela sous un angle différent. Le diable essaie de nous voler en nous faisant sentir inadéquat et nous faisant croire que nous n'avons pas assez de foi. Combien de personnes ici croient en Dieu? Ah, bon, merci. Bien. Qui ici a été baptisé? Très bien. Excellent. Qui veut être baptisé? Ah oui, Monsieur le Président, prends les noms parce qu'on a besoin de faire des baptisèmes, des baptêmes. Sérieusement, mes amis, si vous avez déjà dit oui à Dieu, si vous croyez au Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit, je suis ici pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous avez déjà plus de foi qu'une graine de moutarde. Vous avez déjà plus de foi qu'une graine de moutarde. Vous êtes déjà passé d'une personne centrée sur elle-même à quelqu'un qui place sa confiance et sa foi en Dieu comme votre Seigneur et en Christ comme votre Sauveur. Vous êtes passé d'une attitude centrée sur vous-même à une attitude tournée vers les autres. Vous agissez déjà par la foi. Il faut une foi énorme pour vous transformer ainsi. Ce verset parle également de quelque chose de légèrement différent. Il dit que si vous prenez juste un petit parti de votre foi, de la taille d'une graine de moutarde, et que vous croyez, et que c'est la volonté de Dieu, vous verrez des miracles se produire. C'est vraiment différent. Tu n'as pas besoin de beaucoup de foi. Tu prends juste une petite graine de moutarde, de la foi que tu as déjà, et tu vas voir Dieu vient. Mais comment cela s'applique aux histoires que j'ai partagées? Tout d'abord, Dieu a parlé d'une certaine manière. Jésus a dit, donnez-leur à manger. Josué a entendu Dieu lui dire de faire le tour de la ville et que lorsque la trompette sonnerait et qu'ils criaient, les murs s'écrouleraient. Lorsque Josué a entendu Dieu lui dire qu'il s'entrait dans la fleuve, celui-ci sécherait et qu'il pourrait traverser. Et lorsque Fred et les anciens de la cité à Paris ont entendu les plans de Dieu et sa vision pour leur église, ils ont su qu'ils devaient acheter le bâtiment. La première étape consiste à écouter ce que Dieu dit, ce qu'il attend de vous dans votre vie. Nous devons discerner la volonté de Dieu pour que des miracles se produisent. La volonté de Dieu est la feuille de route qui nous permet de voir le miracle se réaliser. Cela commence par notre écoute de Dieu. Parfois, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y apparaît. J'aimerais que cela fonctionne. Décrocher le téléphone et parler à Dieu. Nous devons lutter avec Dieu. Nous battre avec Dieu jusqu'à ce que nous entendions clairement la réponse de Dieu. Nous devons prier et jeûner et écouter attentivement ce que Dieu attend de nous dans cette situation. Ce à quoi il nous appelle, ce qu'il veut accomplir. Si vous avez entendu Dieu, discutez en avec les anciens, les responsables de groupe de vie, des diacres, etc. Priez et priez jusqu'à ce que l'image soit claire et que vous entendiez ce que Dieu veut. C'est important. Dieu vous montrera toujours la prochaine étape. Il suffit simplement d'être à l'écoute. Deuxièmement, nous devons avoir la foi. Je vous ai déjà dit, que nous avons beaucoup de foi. Donc cela devrait être la partie la plus facile. Pour voir les miracles de Dieu dans nos vies, nous devons avoir la foi. Mais pas juste la foi, une foi en action. Nous devons démontrer notre foi. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque le miracle de la multiplication des pains pour les 5000 et plus personnes, les disciples ont obéi et ont suivi ce que le Christ leur avait demandé de faire. L'objectif était de nourrir 5000 personnes. L'étape suivante consistait pour les disciples à apporter la nourriture à Jésus afin qu'il la bénisse. Pour Josué, même si cela pouvait paraître ridicule qu'une troupe de soldats fasse 7 tours de la ville et sur la 7e fois de sonner la trompette et de crier. Peut-être c'était ridicule, mais il avait la foi. Il montre cette foi en action, poursuivie l'instruction de Dieu. Et Dieu avait dit qu'il leur donnerait la ville. C'était la feuille de route. Pour l'équipe de la cité, Fred m'a raconté qu'en tant qu'ancien, lorsqu'ils sont réunis pour acheter ces propriétés de plusieurs millions d'euros, ils savaient que cela nécessiterait d'importantes sommes d'argent. La vision, ces propriétés, pour accomplir de grandes choses pour la ville. Ce n'est pas juste d'avoir une église, mais pour faire les choses pour la ville de Paris. L'étape suivante, en tant qu'ancien, consiste à donner individuellement bien plus que le dîme. Ils ont demandé l'ancien, en premier, de donner plus que le dîme. L'étape suivante a alors consisté à faire de même avec les diacres. Les diacres ont adhéré au projet en voyant la foi des anciens. Et après, ils ont fait le même avec l'assemblée. Et l'assemblée a voir la foi des anciens, les diacres, et ils ont dit oui. Ils n'ont pas regardé le mieux de Pierre, mais la foi. Et cela a permis aux autres à reprendre. Les églises et les gens du monde entier ont entendu la vision de Dieu. Ils ont vu la foi des membres d'église et l'argent a flué. Mais pas tout de l'argent. Pas tout. La foi a été mise en épreuve. La montagne était énorme et les anciens ont donc fait la même chose, mais une deuxième fois. Puis les diacres et puis l'assemblée. Et les gens du monde entier ont aussi vu la vision de Dieu, la foi de l'équipe et l'argent a afflué. Ils ont acheté le bâtiment. Vous voyez, lorsque nous faisons un pas de foi, Dieu vient. Lorsque nous prenons ne serait-ce qu'une petite partie de la foi que nous avons et que nous faisons un pas, que ce soit un rassemblement de la nourriture, en parcourant une ville en sonnant de la trompette, en mettant simplement les pieds dans l'eau ou en augmentant notre dîme. Nous démontrons notre foi et Dieu accomplit le miracle. Dieu vient. Chacun exerce ce petit peu de foi et nous voyons l'énormité de ce que Dieu peut faire pour nous. Alors, quelles leçons pratiques pouvons-nous attirer pour chacun d'entre nous? Avez-vous déjà reçu une parole prophétique qui parle de quelque chose de nouveau ou de différent ou d'un changement dans vos vies? Avez-vous déjà senti que Dieu vous poussait à faire quelque chose? Avez-vous le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devriez faire mais que vous n'avez pas encore fait. Je suis sûr que nous sommes tous comme ça. Nous avons entendu la voix de Dieu, mais on n'a pas mettre ça en action. Mais c'est maintenant. Nous devons commencer à mettre ces étapes en pratique. En premier, écoutons Dieu. Prenons le temps de prier spécifiquement pour ce sujet. Parlons à votre responsable de groupe de vie ou à votre groupe de vie. Discutons avec les anciens, les diacres. Assurez-vous que vous entendez bien la vision de Dieu. Et à ce moment, Farid n'est pas là, mais je vais mettre un défi à nous, des anciens. Désolé les gars. Et je m'en excuse d'avance. ça va être sur notre réunion demain. Comme vous le savez, cela fait maintenant quelques années que nous discutons du bâtiment, de l'église et de la propriété. Mais nous n'arrivons pas à voir la vision de Dieu sur ça. Nous avons prié, mais il y a trop de sujets, trop de choses qui se passent et nous n'avons pas à prendre un temps spécifique pour parler avec Dieu et d'entendre sa voix sur ce sujet. Nous avons des questions, bien sûr, mais nous n'avons pas à prendre assez de temps sur ce sujet. Et nous avons parlé récemment sur le sujet avec les diacres et nous ne semblons pas avancer. Alors que j'ai préparé ce message, j'ai senti le Seigneur me pousser et me dire que nous devons poursuivre sa vision pour l'Église. Et pour cela, nous devrons prier et jeûner avec Dieu jusqu'à ce que nous entendions sa parole pour nous. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais nous avons besoin. Nous entrons dans une nouvelle saison. Et nous avons besoin de voir cette route devant nous. Nous devons rechercher la vision de Dieu pour cette église et notre avenir. Et un projet de ce bâtiment, ce n'est pas un projet pour demain, pour l'année prochaine. C'est une vision pour les 20 prochaines années. Et maintenant, nous focalisons sur les prochaines années parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais nous avons besoin de voir les prochains 20 ans ensemble. J'ai partagé l'histoire de l'Église à Paris, pas à cause de notre manque de vision, c'était juste un bon exemple de la chose que Dieu veut faire maintenant. Ce n'est pas dans l'histoire de la Bible, Dieu fait des miracles aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec notre vision pour l'Église. Le deuxième point, une fois la vision établie et confirmée, nous devons alors comprendre quelle est la prochaine étape. Prenez le temps pour rechercher cette clarté auprès de Dieu et il vous montrera où vous devez faire un pas de foi. Troisièmement, une fois que nous l'aurons, nous devrons alors faire ce pas avec un peu de notre foi. Alors que nous nous engagions dans ce que Dieu a prévu pour nous, il nous bénira et nous verrons ses bénédictions, ses déversés et des miracles se produire. Et pour conclure ce matin, je veux lancer un défi à chacun d'entre vous. Prenez du temps avec le Seigneur et cherchez sa vision pour vous. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle est. Lui seul le peut. Prenez le temps d'écouter et de voir. Il y a peut-être des choses qui sont en suspens depuis longtemps. Oh, et vous devez prier à ces sujets et demander à aller de l'avant. Demandez quelles sont les prochaines étapes. Parlez avec vos groupes de vie, les anciens, les diacres. Soyez un peuple qui n'a pas peur de mettre un peu de foi dans ce que Dieu veut pour nous. Merci.